Bienvenue, vous écoutez Chit Chat, le podcast confidence entre chattes qui parle de façon décomplexée d'amour, de sexe, de sentiments et de relations. Meilleur coup, ghosting, rupture amoureuse, charge mentale ou encore club libertin, entre deux verres de vin et trois de ginto, on vous dévoile nos conversations intimes les plus folles, celles qu'on partage habituellement entre 1h et 2h du matin. Chit Chat, c'est parti.
Mais ça n'empêche, c'est un sujet aussi, enfin, avec la santé mentale, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent la question de vivre à Paris, bouger ailleurs, avoir plus de nature, enfin, je sais pas, toi aussi dans ton entourage, ou même les gens avec qui tu bosses, si...
Ouais, moi j'ai pas mal de... Bah, les gens que je bosse, non, mais... Enfin, si en vrai, il y a quand même des psys qui se barrent de Paris.
Et qui continuent leur consulte en visio.
Ouais. Et qui, pas tous, mais il y en a pas mal quand même qui gardent leur patientèle.
Ça, j'avoue, c'est un avantage.
Enfin, une partie en tout cas. Mais après, tu vois, je trouve que c'est marrant parce qu'ils se barrent de Paris, mais en même temps, ils répliquent un peu la vie parisienne qu'ils ont dans une autre ville qui est quand même forcément plus petite que Paris, mais un peu similaire, tu vois. C'est pas genre, en gros, j'en ai marre de la ville et je me casse à la campagne, plus de nature, ciao, tu vois.
Et je change
complètement. C'est genre plus, je vais dans une ville genre Bordeaux, Lyon, Marseille. Et ouais, j'ai un plus grand confort de vie. Et voilà, tu vois, genre...
Mais en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on veut le beurre et l'argent du beurre.
Ouais, voilà.
On veut plus de place parce qu'à Paris, on est dans des tout petits apparts. On veut la nature. Donc, ouais. On part dans des villes, oui, Marseille, Bordeaux, voilà. Mais on reproduit la même chose qu'à Paris.
Bah, c'est ça qui est marrant,
nos petits coffee shops, machin.
En fait, je pense que les gens, ils se barrent de Paris en se disant à eux-mêmes qu'ils en ont marre de la ville, du stress et tout. Alors qu'en fait, ils veulent juste un meilleur confort de vie, quoi. Donc une ville moins rush, où t'auras un plus grand appart, où tes restos te coûteront moins cher, tes sorties te coûteront moins cher. Enfin.
Ouais. Après, moi, c'est. Enfin, après, je pense que c'est propre
toi,
à chacun.
Tu serais prête à couper vraiment.
Moi, je serais prête à couper vraiment. Aussi parce que j'ai été élevée plus dans la campagne, tu vois. Et moi, c'est plutôt, donc, bien sûr, c'est par rapport à ce que tu dis, le confort de vie, les loyers, etc. Mais aussi parce que, en fait, il y a trop de, pour moi, c'est trop, quoi. Il y a trop de bruit, trop de gens.
Trop d'agitation.
Trop d'agitation et j'ai dû,
ouais.
En fait, je vois que je fournis un effort au quotidien pour me,
réguler.
Vois, me réguler un peu mon système nerveux.
Ouais, mais
c'était un peu zinziflex de dire ça. Mais
si, non, mais je suis assez d'accord. Je trouve que.
Tu vois,
oui, on aime fait, beaucoup ce
on
mot.
On voulait placer ce mot, c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est fait.
Non, mais c'est vrai. Moi, je me reconnais là-dedans. Je trouve que ça demande un effort à Paris pour se réguler. Après, j'ai vécu dans d'autres villes, mais ça fait longtemps maintenant. Ça fait 10 ans que je suis à Paris, donc je sais pas si ce serait encore le cas. Mais oui, je trouve que ça demande un effort, tu vois, de faire son sport, de marcher, de sortir, de bien dormir pour être.
Ouais, c'est l'organisme.
Et pas avoir trop de tentations aussi de tout le temps
sortir,
aller boire des coups,
trop boire,
etc. Voilà.
Ouais, c'est clair.
Et j'ai l'impression que c'est très connoté à Paris. Mais peut-être qu'ailleurs, c'est le même.
Ouais, je pense
délire,
que
hein.
Paris, bah, c'est exacerbé, quoi.
Ouais, exactement. Tout c'est est intense, en fait, ici.
Et tu vois, je trouve que c'est un sujet encore plus large, mais je trouve qu'on vit dans des vies, alors à Paris, c'est encore pire qu'ailleurs, mais où tu sais, t'as plus la place à la spontanéité. C'est-à-dire que tu dois tout planifier,
tu dois
tout prévoir.
Planifier.
Un resto, tu dois le réserver.
Mais grave, le week-end, genre.
Le week-end.
J'avoue, on réserve tous nos restos.
T'es obligé d'aller à ton resto, t'es obligé quand même de faire la queue quand t'as réservé. T'es obligé de, au ciné maintenant, tu dois choisir ta place.
Ouais.
Enfin, tu vois, tout est, et donc tout, tu peux pas te dire, vas-y, je descends, je vais machin. Non, il faut que tout soit.
Et en même temps, c'est rassurant d'avoir des trucs.
D'avoir
en même
cadre,
temps, c'est rassurant
vois,
pour ceux qui aiment le côté cadré. Mais
non,
je trouve
mais...
que c'est un peu liberticide, tu vois, genre t'es... Enfin, pas liberticide, mais...
Ouais, non, mais c'est fort, mais...
T'étouffes, quoi, genre...
Mais même, tu veux voir tes potes le week-end, t'as quand même intérêt d'avoir un panel de potes assez important pour que quelqu'un soit dispo le week-end. Sinon,
ouais.
Tout le monde est en week-end ou en famille, ou... ce qui est normal,
Il faut se prévoir, il faut anticiper que tu vas avoir peut-être 45 minutes de métro, que si, que ça, que... Ouais,
franchement,
c'est spontané, quoi.
C'est quand la dernière fois que vous avez dit à un pote « Oh, vas-y, je suis dans ton quartier, viens, on boit un coup. »
C'est impossible.
Bah, ça
fait déjà, il faut que t'habites dans le même quartier, ce qui est quand même assez rare, en général.
Mais non, mais j'avoue, c'est triste. Tu vois, genre un truc très spontané de...
Bah, vas-y. Ouais. Bon, la dernière fois, je t'ai rejoint là où tu télétravailles tout le temps.
C'est vrai.
Parce que je passais par là.
Ouais.
Mais bon...
Ouais, c'est rare, sinon...
C'est quand même très rare. Et c'est parce que j'étais dans un moment où j'étais à mi-temps, le mardi, j'avais
et
le temps
en plus,
de venir te voir.
C'est rare. Alors, en plus, on est assez libres dans nos emplois du temps.
Oui.
Enfin,
pour le moment.
Voilà, toi un peu moins maintenant, mais non, mais sinon jusqu'à présent, tu vois, on arrivait quand même à être freelance, à oui. pas avoir des horaires ouais. de bureau. De
alors que si t'as des horaires de bureau, par contre, c'est voilà quoi.
Ah bah c'est hyper.
Ouais.
Puis du coup après la personne elle prend l'habitude de enfin tu sais on a limite horreur du vide en mode genre bon bah là il faut que je prévoie un truc si j'ai rien enfin tu vois c'est moi je sais que avant c'était genre après c'est peut-être plus féminin que masculin mais tous tes soirs ils sont remplis dans la semaine tu vois genre il y a pas un soir où tu te dis bon je fais rien je sais pas ce que je fais c'est genre je vois tel pote je vais au ciné je fais ci
toi
ça. Bah
t'as eu ça
moi j'ai eu ça un peu avant ouais.
Et plus maintenant.
Attends, mais t'es trop
bah maintenant, quand t'es en couple, du coup, après, t'es drivé aussi avec l'autre, t'as des compromis à faire. Enfin, tu vois, t'es plus tout seul dans ta réflexion, mais ouais, par exemple, ma meuf, moi, c'est ça, tu vois, genre.
Elle a son planning sur la semaine.
Elle a son planning, et genre.
Tel soir, on est ensemble, et tel soir, je fais.
Ouais, ouais, tel fois, on fait ci, tel moment, on fait ça.
Puis il y a le sport, enfin.
Ouais. Tu vois, même quand on dit, genre, ce soir, on reste à la maison. C'est genre, bon, du coup, on fait quoi? On regarde une série? Quelle série oui. on regarde? Tu vois? C'est pas juste, on mange et on voit ce qu'on fait, tu vois? C'est ouais. genre, du coup, même s'il y a quelqu'un qui passe à l'improviste, limite, je pense, ça la fait chier. Parce qu'elle a déjà un truc de prévu en mode, bah non, je devais regarder telle série, je dois faire ci.
Il y a déjà mon planning de
ou je dois appeler ma copine, ou je dois appeler ma mère, ou, enfin, ouais. tu vois?
En fait, c'est vraiment la course après le temps, j'ai l'impression.
Ouais.
Mais moi, j'essaie, enfin, après, je sais pas, mais j'essaie quand même de moins en moins organiser des trucs. D'avoir aller un ou deux trucs d'organiser dans la semaine max.
Pas plus.
Ouais. Histoire de pouvoir se dire aussi, bah, ce soir, on avise, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, même, moi, c'est quand c'est le week-end, un peu cette petite angoisse, genre, t'as rien prévu, par exemple, le vendredi soir, t'es content à la base, parce que ouais. 3-4 jours avant, tu te dis, oh, vendredi soir, je vais être fatiguée, donc trop content. En fait, tu rentres chez toi.
T'as un peu l'angoisse qui monte.
On est vendredi soir, quand même. J'ai rien prévu. Et puis personne n'est dispo, puisque tout le monde s'est organisé à l'avance.
Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu une balance entre à la ouais. fois tu sais que ça va te faire du bien de te poser et en même ouais. temps t'as ce truc de bon quand même le FOMO, est-ce que j'aurais pas envie de faire un truc, de sortir.
Ouais,
c'est un équilibre entre en psychologie ce qu'ils appellent entre plaisir immédiat et plaisir je sais pas le terme mais long-termiste. En gros ils disent que ben ce qui va te coûter au départ, donc le fait par exemple de pas sortir le vendredi soir, ça va te faire chier sur le moment, enfin ça va te coûter parce que tu te dis genre ouais la FOMO, les autres ils sortent, moi je suis tout seul et tout. Mais au final les gains que tu vas récupérer derrière ils seront supérieurs parce que t'auras une bonne nuit de sommeil, le lendemain tu pourras être productif, etc. Et à l'inverse, le plaisir immédiat de se dire je vais sortir, ça va être trop cool, donc ça va t'apporter du plaisir à travers la soirée ou ce que tu vas faire. Mais le lendemain tu vas être plus dans le mal, enfin tu vois.
Et en gros, c'est plaisir versus bonheur un peu. Plaisir immédiat, instantané, ouais. alors que le bonheur, c'est un état finalement plus long-termiste, comme tu disais.
Mm.
Ouais, c'est vrai.
Mais bon, des fois, c'est dur de...
C'est dur d'arbitrer. Hein.
Ouais. Toi, comment tu fais? Du coup, t'as un peu des garde-fous, des trucs, des habitudes pour être bien, pour prendre soin de ta santé mentale, toi, au quotidien?
Ouais, je pense. C'est pas un truc, après, que je réfléchis en mode... tu sais, c'est... Enfin, un truc en mode stratégie, j'écris, mais déjà, je pense, avec l'âge, tu te connais bien, tu vois.
Ouais.
En plus, quand tu fais des thérapies, des travails sur toi, tu connais ton désir, tu sais ce dont t'as envie. Donc, je pense que déjà, ça t'aide à se dire, bah, ok, il faut que j'adapte tel ou tel comportement. Enfin, il faut que je sois cohérent dans mes choix, quoi. Après, t'as aussi, toute la partie entrepreneuriale qui te cadre aussi forcément, tu vois. Parce que vu que t'es ton propre patron, t'as ta propre exigence, enfin l'exigence elle tient sur tes épaules à toi et à personne d'autre, donc en gros si tu fais pas le taf ou si tu fais pas ce dont tu dois faire, enfin ce que tu dois faire,
oui, personne,
si tu donnes pas
faire,
les ambitions de tes moyens, enfin les moyens de tes ambitions plutôt, c'est fini quoi, tu t'avances pas et donc je pense que à la fois la structure entrepreneuriale m'oblige à avoir un rythme de vie on va dire assez sain entre guillemets. Et en même temps, la connaissance de soi, le fait de se dire, je sais ce dont j'ai envie, ce qui me convient, ce qui me convient pas. T'arrives à faire des arbitrages cohérents entre, à la fois, te faire plaisir de temps en temps et sortir aller au resto, boire des verres, te coucher tard et tout machin. Et en même temps, l'inverse, parce que tu sais que c'est bon pour toi, que t'en as besoin pour ton travail, pour ton équilibre vie perso, vie pro. Et donc, mais après, ça prend du temps, tu vois, ça vient pas comme ça du jour au lendemain.
Travail de toute une vie.
Une vie, de plusieurs années en tout cas, ouais. Encore une fois, tu fais que t'améliorer, tu vois. Genre, par exemple, là, en début d'année, je m'étais fixé une règle, genre, je bois plus d'alcool en semaine. Genre, du lundi au vendredi.
Eh ben, ça commence bien, la règle.
mais genre, enfin, tu vois, j'arrive pas à la tenir, mais au lieu de me dire, genre, au lieu de me flageller et de me dire, putain, c'est nul et tout machin, tu te dis, bon, bah, j'essaye de le tenir au maximum. Il y a semaines, j'y arrive, des semaines, j'y arrive pas. Après, tu vois, c'est ok, tu vois, et puis il y a entre boire une bière ou deux verres de vin et te démonter la gueule, enfin, tu vois, il y a un juste
équilibre.
Mais le cerveau, j'ai l'impression qu'il est toujours très binaire. Genre, si t'as échoué sur un truc que t'avais dit que tu ferais, genre, ne plus boire d'alcool en semaine, du coup, c'est le, oh, bah, c'est foutu, bah, du coup, je vais picoler tout, tout ce que je
allez,
trouve.
Allez, je prends mon 3-4
heures. Il y a pas de, genre, bah, c'est pas grave, t'as bu un verre, ok, fine. Ouais. Non, c'est genre tout ou rien. On a du mal à trouver un peu la balance, quoi.
Ouais, je suis
surtout avec l'alcool.
Ou les chips.
Et vous aviez peut-être posé la question la dernière fois. Et comment t'en es venu à créer ton concept autour de la santé mentale, la speakeasy?
Ça enregistre là ou pas du tout?
Ah si, si, ça enregistre.
Ah, ça enregistre,
ok. J'espère que t'es ok avec tout ce qu'on dit. Non, on pourra couper au pire.
Alors, speakeasy, c'est venu de manière assez personnelle de mon histoire. La première chose, c'est que ça faisait 3 ans que j'étais salarié, donc 3 ans après mon école de commerce. Et du coup... je me sentais pas hyper à l'aise, tu vois, dans mes différents tafs en marketing. Et du coup, bon, il y avait toute une réflexion de ma vie est cool, sympa, mais il y a ce truc de... il manque, tu vois, la quête de sens. Je me sens pas aligné avec mon travail, avec ses valeurs. Je me sens pas totalement épanoui. Je pense que je peux fournir plus, donner plus. Et puis, tu vois, même au quotidien, j'avais pas cette motivation de me lever pour aller au travail, de me dire, enfin, de me voir sur, tu vois, des fois, l'exercice de, tu te vois où dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je me voyais pas du tout à la place où j'étais, tu vois. Et je voyais même pas comment arriver, enfin, comment concilier ce que je faisais avec des futures aspirations. Donc, il y avait toute cette réflexion-là où je me disais, bah, peut-être que l'entrepreneuriat est un cadre de travail plus adapté à ce que je veux, tu vois. En termes de liberté, de pouvoir mener des projets qui font vraiment sens, tu vois. Et puis après, en parallèle de ça, j'avais des problématiques personnelles sur justement ma vie, qui j'étais, le fait de, tu vois, on parlait de se connaître, de connaître ses désirs. Moi, c'était quelque chose que je savais pas, tu vois. Je me connaissais pas, je savais pas en fait réellement ce qui m'animait, ce dont j'avais envie. Et en fait, ma première thérapie a tout débloqué, mes croyances un peu limitantes que j'avais sur moi. Je me rappelle, ma psy d'ailleurs m'avait dit une phrase qui m'a un peu hanté au début. Et elle m'avait dit, Clément, ça fait 25 ans, vous vivez à côté de vos pompes.
Ah ouais.
Genre, vous aspirez à des choses que vous ne voulez pas, en fait. C'est juste le regard des autres qui vous pousse à aller vers ces choses-là. Donc ça, c'est le désir mimétique de tu désires ce que les autres désirent. Et donc moi, j'étais complètement là-dedans, dans tout, tu vois.
Ça t'a fait tilt, tu t'es dit, ah ouais, je suis vraiment...
Ouais, c'est ça. Dans ma vie amoureuse, dans mes jobs, je prenais que des trucs, en fait, où je me disais, ça, c'est sexy sur le papier, ça en jette, ça, c'est bien payé. Mais en fait, je m'écoutais pas moi-même, parce que je savais pas ce que je voulais, parce que j'avais jamais fait ce travail introspectif sur moi-même. Et du coup, une fois que j'ai fait cette première thérapie, tout s'est, entre guillemets, aligné dans ma tête, en mode, oui, c'est effectivement, il faut que je quitte mon travail, il faut que je crée une entreprise, parce que c'est ça dont j'ai envie. Et après, pourquoi dans la psychothérapie, avec Speakeasy, c'est venu un peu plus tard, un peu par, pas opportunisme, mais par chance, entre guillemets, c'est-à-dire que... par opportunité, parce que j'écrivais sur LinkedIn un peu, tu vois, un espèce de carnet de bord de ma thérapie, de mes séances, des erreurs que j'avais pu faire, que du coup, qu'il fallait ne pas faire, pas reproduire, ou un peu les réflexions à avoir pour se sentir bien avec son psy. Et en fait, progressivement, ça a plu à des gens. Il y a des gens qui m'ont un peu sollicité par rapport à ça. Moi-même, ça m'a donné envie de davantage creuser la question, de me renseigner. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, c'est la réponse est sous mon nez, quoi. J'ai envie d'entreprendre.
Tu avais cette envie aussi d'entreprendre et peut-être
j'ai
que t'es un côté pour ça aussi, tu vois.
Ouais, je sais pas si j'étais fait pour ça, mais en tout cas, oui, j'ai toujours eu une envie. Enfin, à la base, je me disais pas, il faut que j'entreprenne, mais j'ai toujours ressenti un manque de liberté dans l'entrepreneuriat. Un manque de possibilité. Ouais, dans le salariat. Donc, peut-être que j'aurais été freelance, ou que j'aurais été, tu vois, j'aurais fait du libéral, enfin. Mais en tout cas, le fait d'avoir une hiérarchie au-dessus de moi me convenait pas. Et c'est vrai que, après, dans ma famille, j'ai mon oncle, mon grand-père et tout, qui ont entrepris, donc, peut-être qu'au final, oui, j'avais ça dans les gènes, entre guillemets, mais, mais ouais, j'avais cette volonté, en tout cas, d'être plus libre et de faire vraiment quelque chose qui me plaisait. Et c'est pour ça que même avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai testé plein de, enfin, tu vois, j'ai été chef de produit, business analyst, j'ai été sales, j'ai bossé dans des grands groupes, dans des startups. Enfin, j'ai essayé vraiment plein de trucs parce que je me disais.
D'avoir une palette diversifiée.
Ouais, j'étais persuadé que juste j'étais pas adapté là, à l'endroit où j'étais. Mais que voilà, si je changeais de boîte ou de patron, bah ça irait mieux. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu vois que c'est toujours le même résultat, tu te dis bah
oups.
Non, en fait,
peut-être que c'est pas là le problème.
Ouais, et tant mieux, justement, ça permet de bien affiner, donc
ouais, carrément. Et donc ouais, c'est comme ça que après bah Speakeasy
est né,
ouais.
Et toi, t'as déjà consulté plusieurs types de thérapeutes différents ou
ouais. Alors j'ai fait trois thérapies. Une première thérapie qui était une thérapie cognitive et comportementale, mais de la nouvelle génération, donc ce qui s'appelle les TCCE,
okay.
Le E pour émotionnel. C'était une thérapie assez classique sur les TCC, tu vois, où on va dire que t'as un cadre assez rationnel, ce dont j'avais besoin au début parce que c'était ma première thérapie, où vraiment tu amènes en fait un besoin en particulier. Donc là, pour le coup, tu vois, c'était apprendre à mieux me connaître, à faire des choix qui sont alignés avec ce que je voulais. Et après, et tu travailles avec le thérapeute, il te donne des conseils, des exercices de visualisation, d'écriture, etc. Et donc, une fois que tu estimes que tu vas mieux sur cette problématique-là, en général, le travail s'arrête, tu vois. Sauf si, y a d'autres choses qui arrivent entre-temps, mais voilà, ça, c'est un peu la base des TCC. Okay. Après j'ai fait une thérapie EMDR, donc complètement différente. Je sais plus ce que ça veut dire exactement l'acronyme, parce que
c'est Eye Movement,
je ne sais plus quoi.
Et après le D, je sais plus.
Mais en gros, c'est un outil qui est pas que basé sur le langage, mais aussi beaucoup sur le corps, où en gros, le but c'est de désensibiliser un souvenir traumatique qui est dans ta mémoire, qui est ancré dans ta mémoire et qui te fait souffrir du coup, qui cause des troubles d'anxiété, des blocages, des crises de panique, etc. Et qui du coup permet en fait de dissocier,
Le souvenir de l'émotion.
Exactement, le souvenir de l'émotion. Donc par exemple, imagine t'as eu un accident de voiture et depuis ça, t'arrives plus à remonter en voiture. Tu vas dissocier le fait de te retrouver dans une voiture ou dans un transport avec l'anxiété que ça peut générer, la peur.
Okay.
Donc ça se base avec notamment un faisceau lumineux. Donc en fait, tes yeux, ils suivent le faisceau lumineux. Donc il y a un mouvement oculaire. Et c'est ça qui permet, en même temps, le psy parle avec toi. C'est ça qui permet en fait de déprogrammer l'émotion qui est liée dans ta...
Ça, c'est assez incroyable hein, quand même.
Ouais. Donc ça, c'est un outil vraiment très efficace pour tout ce qui va être trauma.
C'est vraiment traumatique, ok.
Ouais. Donc j'ai fait ça. Ça, en général, c'est des thérapies plus courtes. Tu vois, la première thérapie, elle avait fait un an. Là, j'ai dû faire une petite dizaine de séances à peine. Donc c'est plus rapide. Et après, la troisième thérapie, c'était une thérapie analytique qui a duré aussi, pareil, un an, je dirais, un truc comme ça.
Avec encore un autre thérapeute,
Et là,
ça consiste en quoi l'analytique ?
Alors en fait, la thérapie d'orientation analytique, c'est un peu comme une psychanalyse, sauf qu'elle est plus courte, plus moderne. Donc en gros, là, le but, c'est vraiment, si tu veux, de ne pas arriver comme en TCC avec une demande particulière du type, j'ai peur, j'ai de parler en public ou des choses comme ça. C'est plus, normalement, c'est plus, c'est une visée en tout cas plus généraliste de... travailler sur toi-même, tu vois, d'apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître tes désirs. Et donc, c'est très lié, effectivement, à ta famille, en fait, à ton éducation, à tes parents. Donc, en gros, tu as tout un travail, ce qu'on appelle l'anamnèse, où, en gros, le psy, au départ, lors des premières séances, il va balayer un peu ton histoire de vie, donc et notamment ton éducation, tes parents, les rapports avec tes parents, avec ta fratrie, etc.
D'accord.
Et donc, c'est un travail qui est beaucoup plus profond, parce que tu vas beaucoup plus dans l'analyse, justement, de ton histoire de vie. Donc, tu vas, en général, ce qu'on dit, c'est que la psychanalyse ou l'orientation analytique, ça va en profondeur quand les TCC vont plus en surface.
Ok.
Donc, tu as une qui est plus courte, plus efficace sur des problématiques, on va dire, plus terre à terre, on va dire, moins philosophiques. Et la psychanalyse, c'est vraiment pour te découvrir, pour travailler en profondeur sur toi-même. C'est pour ça que ça peut durer des années, voire toute une vie, tu vois.
Ok. Mais ça, je trouve que c'est pas facile de faire la différence. Tu vois, moi, par exemple, je suis l'exemple parfait de la personne qui a envie de suivre une thérapie, mais qui ne l'a jamais vraiment fait. Mm-hmm. Pas forcément pour une raison particulière, hein, absolument pas. Mais j'ai souvent envie de commencer. Mais j'ai bon, le principal frein, c'est plutôt l'argent, mmh. mais enfin le budget que ça représente, et aussi l'engagement un peu émotionnel entre guillemets. Ouais. Mais c'est difficile de se dire quel thérapeute je vais voir, quoi. Mmh. Vers qui je m'oriente, c'est vraiment enfin
est-ce que ça va me correspondre,
ouais, est-ce que ça me correspond, la flemme de me dire que je paye 70 € alors que ça se trouve ça va servir à rien et que je vais pas m'entendre avec la personne, etc., etc., quoi. Je pense que ça, c'est un peu les questions de base auxquelles Speakeasy répond. Enfin, j'imagine c'est un peu la visée du concept, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Speakeasy, mais il y a d'autres acteurs. Hein. Justement, le but, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent démarrer un travail thérapeutique, mais qui ont, justement, comme tu le disais très bien, aucune idée de vers qui se tourner, s'orienter, et qui ont peur, justement, de perdre du temps, de l'énergie, et du coup, derrière, de se démotiver parce que la personne, que ce soit à travers sa manière de travailler, le cadre qu'elle propose, ou juste ce qu'elle est, ne va pas convenir aux besoins de la personne, ne va pas lui permettre de se sentir, on va dire, safe, de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise et en confiance pour échanger. Et donc, le but de Speakeasy, c'est justement d'accompagner ces personnes-là en leur proposant un service gratuit pour justement comprendre leurs besoins, échanger sur ce besoin, comprendre voilà s'il y a un historique thérapeutique, pourquoi, enfin ce qui n'a pas fonctionné auparavant, etc. Et donc derrière pouvoir proposer des professionnels, donc aussi bien des psychologues que des psychothérapeutes que des psychanalystes.
Ok.
Donc trois types
différents. C'est ces trois types là.
C'est trois types différents.
T'as pas d'autres
Si, t'en as plein.
T'as des trucs un peu plus perchés et tout ou pas? Enfin.
Ouais. Avec ses guillemets. Bah en fait après tu peux avoir plein de titres, mais en gros, après, tu as une quatrième catégorie qui est un peu ce qu'on appelle les psychopraticiens ou juste praticiens, qui sont là des titres qui sont pas du tout protégés. Donc, ça veut pas dire que tous les gens qui sont psychopraticiens sont des charlatans, mais juste là,
c'est pas reconnu comme ça.
C'est pas reconnu par l'État ou par une quelconque institution. Et du coup, t'as moins de traçabilité, moins de gages de qualité. Mais voilà. Après, il y a des gens qui sont très compétents, très professionnels.
Bien et je sûr, pense mais que... c'est bien d'avoir une palette très large aussi.
Ouais.
Et comme dans les, j'imagine, les psys diplômés, t'as aussi des personnes qui sont très compétentes et d'autres pas du tout. Enfin, un peu comme clairement. Partout, dans tous les domaines.
Il y a des insiflex.
Il y a des connaisseurs.
Totalement.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Ouais, non, totalement. Il y a des psys qui sont pas compétents. Enfin. Comme de toute façon de partout en fait dans tous les métiers t'as des gens le diplôme ne te protège pas d'une personne soit qui n'est pas compétente soit même qui n'est juste pas qui ne te correspond pas en fait.
C'est ce que j'allais dire en fait il y a tellement de personnes différentes et tellement de pratiques aussi différentes que ça peut pas répondre à tous les besoins de n'importe qui et des fois faut aussi tester faut aussi
accepter
que ça peut prendre un peu de temps pour trouver la bonne personne avec qui ça va fitter et des fois en testant des pratiques en testant un psy tu te dis enfin t'apprends aussi à mieux te connaître et à mieux savoir ce dont tu as besoin parce que quand t'as jamais finalement fait de thérapie tu sais pas non plus ce qui va te plaire te convenir.
Exactement.
Tout à fait.
C'est bien aussi un peu de se dire bon peut-être que je vais perdre 70 balles dans une consulte mais je vais en ressortir en me disant ah ok ça j'ai pas trop aimé bon peut-être que je peux trouver une approche un peu différente et
Exactement.
Et aller plus vers quelque chose qui correspondra.
C'est ce qu'on disait quand on parlait tout à l'heure de plaisir immédiat, VS plaisir un peu plus long-termiste. Bah, là, on est typiquement, tu vois, dans ce schéma-là. Quand tu disais, j'ai la flemme, ou j'ai pas envie de dépenser 70 €, ou je peux pas me permettre de dépenser de l'argent. En fait, si tu peux, c'est juste que tu dois accepter de rogner certains autres postes de dépenses pour mettre cet argent-là.
Oui, faire la priorité, quoi.
Exactement. C'est un équilibrage, enfin, c'est un arbitrage plutôt sur, ok, bah ça va me coûter de mettre 70 €, mais derrière, quelles sont les plus-values que ça peut apporter en termes de bien-être, de santé mentale, etc. Tu vois. Mais c'est sûr que le premier pas, je pense, pour faire une thérapie, c'est d'avoir cette vision-là, tu vois, de se dire, je suis prêt à sacrifier du temps, de l'énergie et de l'argent pour aller bien. Et je suis prêt et je suis même entre guillemets limite, j'ai envie de dire heureux, tu vois, ou satisfait de le faire, parce qu'en fait. Ça vaut le coup, tu vois, c'est vraiment un investissement.
Mais le pire, c'est que je suis convaincue que ce serait génial, mais je sais pas, en fait, j'ai pas envie de ton, enfin, j'ai pas envie que ce soit, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis pas prête, tout simplement.
Peut-être que c'est.
Mais j'ai pas, en fait, j'ai pas envie de tomber sur une personne où je vois que ça a pas avancé. Peut-être c'est un peu mon petit délire de contrôle, mais ou de me dire elle va pas aller me faire sur les, enfin, je sais pas. J'ai pas envie que ce soit juste de raconter ma vie. J'ai envie qu'on cible des choses et qu'on aille direct dedans. Donc, mais après, du coup, c'est intéressant de voir la différence entre déjà les TCC et la psychanalyse, entre guillemets.
Ouais, bah totalement. Oui. C'est la compatibilité exactement entre tes besoins, tes désirs et ce que les professionnels peuvent offrir.
Ouais, c'est ça.
Et c'est pour ça que avec Speakeasy, on essaie de travailler entre guillemets avec tous les bord thérapeutique possible,
ouais.
Parce que ce qui convient à une personne ne convient pas à une autre, et nous on estime qu'il faut des couleurs thérapeutiques différentes, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Que si on travaille qu'avec des psychologues cliniciens qui font des TCC, ça correspondra pas à d'autres personnes, qu'il y a des gens qui veulent des trucs moins conventionnels, comme je disais tout à l'heure, un peu plus perchés, d'autres qui sont justement rassurés par le cadre, ce côté un peu rationnel, scientifique.
Exactement.
Donc, ouais, il faut.
Et c'est dans plein de domaines, regarde, dans la nutrition, ouais. C'est pareil, il y a énormément de couleurs thérapeutiques, comme tu dis. Et les gens viennent chercher parfois beaucoup de cadres, parfois beaucoup de comportemental, parfois beaucoup de un truc un peu plus perché, enfin voilà,
et en fonction des moments de ta vie aussi, comme toi. Exactement. Tu vois, tu as testé plein de choses différentes parce que ça répondait à des besoins différents, à des moments de vie différents. Est-ce que tu as l'impression que là avec Speakeasy, enfin on parle quand même beaucoup de santé mentale dans les médias dernièrement. Est-ce que tu trouves qu'il y a, on va vers un mieux en allant consulter, en prenant plus soin de notre santé mentale et en essayant d'apprendre à mieux nous connaître? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que finalement on déterre plein de trucs et... Parce que je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde est un peu fucked up.
C'est la boîte de Pandore.
Ouais, c'est ça, tu vois, genre t'ouvres tout et t'es genre oh là là, et tout le monde a des traumas.
Plus tout le monde est fucked up.
Tout le monde a des galères, des problèmes, enfin je... Je sais pas, je m'interroge vraiment là-dessus et j'ai envie de croire que c'est une bonne chose, hein, vraiment de s'intéresser à notre santé et d'aller creuser ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus on en parle finalement, plus aussi ça exacerbe un peu tous ces sujets.
Ouais, c'est une bonne question. Il y a pas mal de gens qui me posent cette question. Notamment, je pense à un pote qui m'a dit, moi j'ai envie d'aller voir un psy, mais j'ai trop peur
de ce que je vais trouver.
De ce que je vais trouver, de ce que j'ai déterré. Et surtout après, derrière, de tomber accro à ça, tu vois, de plus pouvoir m'en passer, de toujours se sentir obligé d'aller voir un psy pour aller bien ou pour fonctionner. Et je pense que ça, c'est un peu un mythe, tu vois. Je pense que déjà, le psy, il est pas du tout dans cette relation de dépendance émotionnelle ou thérapeutique. Justement, le but du psy, c'est que tu sois acteur de ta propre vie et qu'au bout d'un moment, tu sois indépendant et que t'aies plus besoin de lui pour fonctionner de manière épanouissante. Et donc, je pense que c'est au contraire que c'est bien d'aller voir un psy et d'aller déterrer ce qu'il y a à déterrer, entre guillemets. Même si ça fait peur, même si c'est douloureux, ça c'est sûr, que la thérapie c'est vraiment, c'est quand même cyclique, c'est pas du tout une progression linéaire. T'as des hauts, t'as des bas, t'as des bas qui peuvent être très bas, très douloureux. Mais au final, le but c'est de progresser et d'arriver à la fin à un état, d'épanouissement, de bien-être qui te satisfait, qui est aligné avec ce dont t'as envie, ce que tu es, etc. Donc je pense que non, le fait d'aller voir un psy, ça va pas créer des névroses, créer des problèmes imaginaires. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que comme la santé mentale est une thématique qui devient vraiment très à la mode et que les gens en ont conscience, il peut y avoir derrière des, on pourrait appeler ça des dérives, entre guillemets, dans le discours ou dans la vision de certaines personnes qui vont, par exemple... un truc très à la mode, se dire HPI alors que pas forcément, tu vois.
S'auto-diagnostiquer,
exactement. Et entre guillemets, se créer des faux trucs parce que ça fait partie un peu d'un système où tu te crées une identité à travers ça, tu vois. Il y a beaucoup de stars qui se disent HPI, qui se disent maniaco-dépressif. On parle, j'ai lu le bouquin de Panayotis qui se décrit comme, qui a été diagnostiqué.
Oui, lui, il a une TDAH,
dépression
mélancolique, un truc comme ça.
Un truc apparemment qui revient tous les 8 ans ou je sais plus quoi.
Donc forcément, tu vois, quelqu'un qui peut être fan de lui, il peut se dire,
moi aussi, j'ai des
blues, des spleen, etc. Donc je suis comme ça. Donc forcément, l'autodiagnostic et le fait d'être influencé par cette personne peut créer, tu vois, ce genre de, on s'invente un peu des problèmes. Mais je pense que de manière globale, si on prend 90% des cas, les gens ont besoin et ont raison d'aller voir un psy, et les résultats, ils sont bénéfiques, tu vois.
Ouais, non, mais je suis très convaincue. Ouais, j'ai totalement convaincue.
Mais par contre, c'est vrai que faut aussi, enfin, c'est prouvé, je crois, il y a un effet rebond quand même après les premières consultations ou après les débuts d'une thérapie. Souvent, t'as un moins bien avant, après, d'aller mieux sur le long terme. Mais il y a quand même un truc de, bah, tu déterres des choses et souvent, ça peut réveiller des émotions assez inconfortables.
Ouais.
Et ça fait partie aussi du process de la thérapie où
c'est ça.
Faut être prêt à en passer par là. Mais ouais, sur le long terme, c'est du mieux.
Ouais, exactement, tu passes par plusieurs phases d'émotions. Un peu comme un deuil. Il y a eu une enquête qui avait comparé ça avec un peu le deuil. Alors, je sais plus de tête, mais tu passes par plein d'émotions différentes en fonction de la temporalité.
T'as le déni,
t'as la colère.
La tristesse, la négociation et après l'acceptation.
Ah, vous les connaissez mieux que moi. la thérapie, c'est un peu ça, tu vois. Genre, au début, t'as un soulagement parce qu'en général, tu te fais une montagne.
Tu te sens écouté.
Tu te fais une montagne de la thérapie et t'arrives et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est juste ça, c'est cool, c'est chill. La personne, surtout si la personne, elle te met à l'aise et que tu te sens bien avec elle, tu te dis, bon, bah, ok, il suffit juste de parler comme si, enfin, tu vois.
Donc, ouais, justement, moi, j'ai peur de ça, donc je suis peut-être un peu zinzin. Hein. j'ai envie que qu'il y ait des résultats. Tu sais ce que je veux dire, justement.
Ouais.
De pas
toi, tu veux. Ah, moi, je veux pas juste parler. Toi, t'es dans l'efficacité. Ah, genre,
t'es là pour rentabiliser 70 euros.
Non, mais je veux qu'il y ait des petites révélations.
Mais est-ce que tu penses que, genre, en une heure, on va régler?
Et non. Et bien sûr, je sais que non. Je sais que non, mais c'est comme si j'avais... En fait, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Désolée, je change complètement de sujet. C'est comme si j'ai un peu trop des grosses attentes. J'ai peur d'être déçue en y allant et de me dire... C'est pas forcément que l'argent. Mmh. De me dire juste, bon, bah voilà, j'ai fait 5 séances. Et en fait, bon, bah j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. On a parlé, la personne était agréable, on a eu un bon feeling. Mais que j'ai pas eu des petites révélations. Et je pense que du coup, j'ai peur d'avoir un écart entre mes attentes et ce qui va vraiment se passer. Je pense que c'est ça qui me freine actuellement à dépenser ce temps et cet argent dans la dent.
Et au contraire, qu'est-ce qui te ferait du coup
pas oser? Tu vois, par exemple, quand quelqu'un me dit « Ouais, je suis allée voir cette psy, il y a eu des trucs de fou, etc. » Là, tout de suite, je me dis
un petit «
Oh, aussi, j'aimerais bien. » Alors que c'est que maintenant, je sais que c'est pas très rationnel et je sais que ça peut pas forcément se passer comme ça. Je peux pas contrôler ce qui va se passer. Et puis, ça se trouve, il va se passer des très belles choses auxquelles je m'attends pas, et voilà. Mais ce qui me donne envie, c'est quand j'entends quelqu'un dire « Ah ouais, mais c'est vrai, moi, ça a fait
vachement petit. » D'avoir la recommandation, finalement, d'un proche. C'est ça aussi, je pense,
ça me rassure un peu, qui est hyper rassurant.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais écrit un article, une partie de newsletter là-dessus. Bon, en gros, justement, je me posais la question de « Est-ce que la psychothérapie a forcément un effet waouh ou doit avoir forcément un effet waouh sur les personnes ?»
Ouais, c'est exactement ça.
Et je pense que la réponse, elle est non, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, du stade de vie à laquelle elle va consulter, de ses attentes et surtout de la problématique qu'elle apporte.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que les freins, en général, qui te bloquent pour aller voir une thérapie, il y a déjà une partie de ton problème pour lequel tu vas aller voir un psy se joue déjà là-dedans, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des psys, tu vois, qui vont... Enfin, d'autres personnes qui pourraient te dire la même chose que toi, genre j'ai peur d'aller voir un psy, mais pour d'autres raisons... Ces raisons-là sont liées forcément aux problèmes intrinsèques qu'elles vont amener.
Oui.
Et après, je pense effectivement que non, une thérapie, elle n'est pas forcément cet effet waouh de waouh, ça a changé ma vie, j'ai appris des trucs révolutionnaires. Déjà parce que, encore une fois, ça dépend du type de thérapie que tu vas voir. Et ça dépend aussi des attentes que tu mets là-dedans et de qui tu es. Moi, c'est vrai que j'ai eu la première thérapie que j'ai faite, j'ai eu un effet waouh exceptionnel, tu vois. Mais parce qu'en fait, il y avait tellement tout à déconstruire et. Tu vois, genre, comme ma psy m'a dit, j'avais tellement vécu à côté de mes pompes que forcément, le jour où le psy il arrive, il te dit, bah, en fait, garçon, tu fais n'importe quoi et tu te connais pas, forcément, bah, tu peux avoir qu'un effet waouh quand tu prends conscience de ça, tu vois.
Et t'avais 25 ans, en plus.
Et j'avais 25 ans, donc j'étais jeune, tu vois, t'as encore plus cet effet, hein. Quand tu vis, voilà, par exemple, si j'étais allé à 40 ans, t'as quand même une meilleure connaissance de toi, bah, cet effet waouh, tu l'aurais pas eu. Et même, je pense que j'y serais pas allé pour cette raison-là, parce que ce travail-là, je l'aurais déjà fait, peut-être sous d'autres formes, tu vois. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre la pression là-dessus.
Mm.
Et voilà, il faut juste y aller, essayer de prendre un peu le maximum de ce que tu peux prendre, tu vois. Et après, c'est sûr que là, tu parlais de 5 séances. en 500, c'est difficile de, voilà, d'avoir des résultats exceptionnels, tu vois.
Tu peux déjà avoir des choses, mais après, oui, je pense que pour aller plus en profondeur, ça demande un engagement, un investissement.
Ouais. Et puis tout dépend de la problématique, comme vous l'avez dit plusieurs fois.
Mais je pense aussi, c'est peut-être d'y aller avec une curiosité, tu vois.
Ouais.
Sans trop d'a priori, se dire, bon, on verra bien. Et j'ai l'impression aussi que quand tu viens avec une problématique, au fil des séances, tu te rends compte que ta problématique initiale, c'est pas du tout celle sur laquelle tu vas bosser. Parce qu'il y a plein d'autres choses que t'as bien enfouies. Et en fait, ok, t'as amené ça comme sujet, mais en fait, on s'en bat les couilles. Mmh. Ça, c'est un peu le truc de surface, mais il y a d'autres trucs en souterrain, et c'est ça qui nous intéresse.
Mais ça, je trouve ça super intéressant.
Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai été voir une psy il y a, je sais pas, 2 ans. Je suis venue avec un sujet. Et en fait, mais peut-être au bout de 3-4 séances, elle m'a dit, bon, voilà, tu vois, à la base, j'avais pas du tout pensé à ce truc. Et c'est au fil des séances où t'as la confiance du thérapeute, enfin, toi, t'es en confiance, où là, tu te sens prêt aussi à aborder ces sujets. Sinon, première séance, bah non, je te connais pas, je vais pas te livrer des trucs. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est important de nouer une relation, en fait. Enfin,
c'est primordial. Hein.
Et c'est aussi sur la durée que ça peut se mettre en place.
Et le pire, c'est qu'en plus, moi-même, en tant que thérapeute, je peux pas régler le souci nutritionnel d'une personne au bout d'une séance. J'en ai totalement conscience de ça, et je pense que le jour où je le ferai, ça se trouve, en plus, ça va super bien se passer et tout. Mais après, c'est peut-être des histoires qu'on se raconte aussi à nous pour dire, oh, ouais, j'y vais pas, enfin, tu vois.
Peut-être que c'est juste pas le bon moment pour toi, c'est ça, et quand tu seras prête.
Je pense qu'il y a le professionnel qui attend le bon moment, enfin, qui attend que le patient soit prêt à entendre ce qu'il va dire.
Complètement.
Tout à fait. Si t'arrives avec.
Et ça, c'est hyper important.
Ouais, c'est hyper important. Toi, t'es diététicienne, si derrière la séance tu vois globalement ce qui cloche, mais que tu sens pas la personne prête à lui dire, bah en fait, tu manges n'importe comment, et tu vois, il faut y aller progressivement, donc tu vas lui faire passer des messages de manière subtile, en douceur, pour qu'au bout d'un moment, tu puisses lui dire, bah voilà, il faut qu'on fasse ça, ça, ça.
Tout à fait.
Et un psy, c'est pareil.
Souvent, enfin, j'ai déjà entendu, je crois que c'est une psychologue qui avait dit ça dans une interview, et quelqu'un d'autre aussi, un thérapeute, le disait. Le psy disait, mon objectif, c'est votre objectif. En fait, si la personne elle vient en disant ah oui, je veux faire ça, genre pour toi par exemple, je veux perdre du poids, et toi tu vois que derrière il y a d'autres choses qui sont liées, peut-être avec des troubles du comportement, nanana. Bon, là c'est un peu différent parce que c'est lié à sa santé, donc ça peut la mettre en danger. Mais admettons, sur un autre sujet, tu vas dire ok, bon bah très bien, c'est ton objectif, et bah je vais t'aider à résoudre cet objectif. Parce que tu vas pas lui dire non, 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 on va pas faire ça.
C'est pas ça, bien sûr.
C'est pas le bon moment pour elle pour l'entendre, donc ça ne marchera pas quoi qu'il arrive.
Ouais.
Et je pense qu'avec les accompagnements psy, c'est pareil en fait. Et c'est en cheminant que finalement ton objectif, bah, il va dériver vers autre chose qui sera plus efficace.
En fait, le rôle du psy, c'est d'échanger avec toi pour faire naître en toi des réflexions, et que toi-même, en fait, tu arrives à trouver les clés à tes réponses. Parce qu'en fait, le psy, il n'a pas les réponses à ta place, parce que le psy ne te connaît pas mieux que toi.
Ça, c'est une bonne question, parce que, pareil, en tant que personne qui n'a jamais fait de la thérapie, j'ai bien conscience que c'est pas le psy qui va te dire « fais ci, fais ça », enfin, les réponses, elles sont à l'intérieur de chacun de nous, mais c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui peut te donner des pistes, tu vois.
Mais
parce
il peut
que
le faire.
Quelqu'un qui rebondit que sur ce que tu dis, et qui attend que ce soit toi qui amène les sujets... Et j'ai déjà eu des retours, tu vois, de copines ou de potes qui disaient « Ouais, c'était cool avec mon ou ma psy, mais bon, j'ai l'impression que il ou elle attendait que j'oriente la conversation. » Et moi, je pense qu'il me faudrait peut-être quelqu'un de plus...
Une approche plus directive.
Ouais, une approche plus directive ou quelque chose qui soit subjectif, où c'est moi qui mène quand même le truc, mais enfin les réponses viennent de moi, mais quelqu'un quand même qui me propose des choses. Et pas juste de l'écoute, quoi.
Bah ça, c'est hyper intéressant. Dans le questionnaire Speakeasy, je pense que ça, tu peux le remplir en disant, moi, je veux pas un psy qui me fait et encore. Enfin, et moi, particulièrement, je sais que ça m'angoisserait aussi. J'ai besoin de quelqu'un qui échange avec moi.
Ouais, donc,
mais il y a peut-être d'autres personnes qui kiffent, justement, d'avoir tout l'espace pour parler.
Exactement.
Sans quelqu'un qui rebondit plus que ça. C'est des
affinités. J'en connais, moi.
Après, tu vois ça, le coup du c'est un peu les clichés de la psychanalyse d'il y a une vingtaine ou trentaine d'années.
Ouais, mais on en entend encore. Enfin, moi, j'ai eu des échos aussi de potes qui sont tombés sur ce genre de personnes, peut-être un peu à l'ancienne.
Voilà, évidemment, il y a toujours des gens qui vont avoir un peu cette posture analytique où, justement, t'es davantage dans une écoute. Mais encore une fois, tu vois, genre, même l'écoute, c'est une écoute active, et c'est pas parce que la personne, elle ne parle pas qu'elle ne travaille pas, tu vois. Et c'est hyper, déjà c'est une science pour moi et un savoir incroyable de savoir et vraiment écouter une personne. Et après, il y a savoir écouter, il y a savoir condenser les informations et après les prioriser et partir de celles qui sont intéressantes, tu vois. Et bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà, je pense que globalement maintenant, même ceux qui font de la psychanalyse, ils ont une approche moderne parce que justement on a trop souffert de la psychanalyse freudienne où t'es allongé sur un divan, où tu parles pas, où le mec il prend des notes, où il y a des blancs, enfin où c'est un peu anxiogène. Et justement aujourd'hui, il y a une grande majorité des professionnels qui sont hyper dans l'échange, qui vont rebondir, qui vont pas laisser le patient voilà suspendu à des mots ou à des trucs. Donc pour moi un bon psy, il s'adapte à la personne. S'il voit que la personne a besoin de vider son sac et de parler, il va laisser parler et rebondir quand il y a besoin de rebondir. Quand tu vois qu'une personne elle a justement besoin d'être un peu leadée et d'avoir un fil rouge, eh ben il est là pour poser les questions comme un entretien ou un podcast, tu vois, où tu vas un peu mener ton invité. C'est un peu pareil, je trouve. Ouais, en fonction de l'invité, tu vas poser plus ou moins de questions, tu t'adaptes.
Merci d'avoir écouté Chit Chat. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis pendant l'apéro, à nous mettre 5 étoiles ou à nous laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.